présidentielle la plus dingue de la 5e République. Pour débattre avec nous, Dominique Rousseau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de droit constitutionnel à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Olivier Roucan, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes politologue et constitutionnaliste, chercheur au Centre d'études et de recherche de sciences administratives et politiques de Paris 2. Merci à tous les deux d'être là pour essayer de prendre un tout petit peu de recul, un tout petit peu de champ historique sur ce qui est en train de se passer dans cette campagne électorale. Dominique Rousseau, je vais essayer de résumer la situation. Le candidat de la droite est plus que fragilisé par une affaire qui rebondit tous les jours. Le candidat de la gauche ne suscite pas un enthousiasme débordant dans son camp. Vous ajoutez à cela la candidate du Front National qui est en tête dans les sondages et un ancien ministre de l'économie jeune qui perturbe le jeu à gauche et à droite. Est-ce que vous avez déjà vu un tableau comme celui-là ?
Un tableau comme celui-là, non, mais des tableaux qui y ressemblent, oui.
Ah,
c'est vrai que ça turbule. Hein.
Ah oui, là, ça turbule.
C'est vrai que ça turbule, c'est vrai que c'est un peu dingue, pour reprendre votre formule. Mais si je retourne dans le passé, comme vous m'y invitez, je pense évidemment immédiatement à 1974.
Pourquoi ?
Parce que, d'abord, il y a les mêmes acteurs, le canard enchaîné, qui sort l'affaire de l'avoir fiscal de Chaban-Delmas, et qui laisse aussi planer un doute sur les circonstances de la mort de sa première femme, puisque sa femme est décédée dans un accident de voiture. Chaban-Delmas s'est remarié un an après. Donc, il y a des rumeurs qui sont lancées dans la presse sur la responsabilité ou pas de Chaban-Delmas dans cet accident.
Et puis, vous le disiez, il y a le volet fiscal où on accuse Chaban de ne pas avoir payé tous ses impôts,
exactement,
pour résumer l'affaire.
Exactement. Et puis, il y a un certain nombre de députés gaullistes qui vont, avec Jacques Chirac en tête, rédiger, publier un manifeste, le manifeste des 43, pour montrer qu'ils ne sont pas derrière le candidat gaulliste et qu'ils appellent finalement à voter dès le premier tour pour Giscard. Autrement dit, il y a un risque pour François Fillon aujourd'hui d'être chabanisé, puisque au début de la campagne électorale, Chaban-Delmas était devant Giscard. Et puis, avec toutes ces révélations et ces campagnes, Chaban-Delmas a glissé dans les sondages, Giscard est monté, et vous connaissez la suite. La campagne de 1974 a été une campagne très violente, qui ressemble d'une certaine manière à celle-là, puisqu'il y a un certain nombre de députés ou de sénateurs de républicains
qui sont en train de lâcher François Fillon.
Et qui demandent à François Fillon de se retirer, comme on avait demandé à Chaban de se retirer.
Olivier Roucan, vous êtes d'accord avec la comparaison de 74 ?
Oui, entièrement d'accord. Simplement, de mémoire, les informations étaient sorties plus tôt. Donc, on était moins dans la démocratie instantanée. Parce que là, on voit quand même que les délais sont très resserrés, ce qui pourrait d'ailleurs...
On est à 80 jours de l'élection présidentielle.
...poser des problèmes sur l'organisation de l'élection, parce que pour l'instant, François Fillon n'a pas dit qu'il arrêtait. Il y a les présentations à recueillir. Donc, tout ceci doit se faire avant le 17 mars, me semble-t-il. Donc, cette démocratie instantanée, elle permet à toutes les spéculations de prendre beaucoup d'ampleur très vite, parce qu'il faut toujours rappeler la distinction à faire des registres judiciaires et des registres politiques. Alors, il est vrai que ça se posait déjà en 74, ça s'est reposé en 80, où il y a toujours, autour d'une présidentielle, une ou deux affaires qui... cerne un des candidats, rappelons-nous, des 3 ans de cohabitation, des 5 ans de cohabitation, avec les 3 dernières années du mandat de Jacques Chirac qui allait se représenter en 2002, qui ont pour lui été, de ce point de vue, déjà un enfer.
Et ça dans toutes les élections. C'est-à-dire, je crois que là, François Fillon exagère quand il dit que c'est la première fois. Non. Si vous reprenez en 69, les affaires qui sont sorties sur Madame Pompidou qui aurait participé à des parties fines, et Pompidou a été très très marqué. De Gaulle avait refusé de le recevoir. Si vous prenez en 81 l'affaire des diamants, sortie également par le canard enchaîné, et les militants gaullistes qui mettaient des diamants sur les yeux de Giscard. Si vous prenez l'affaire Villepin-Sarkozy, l'affaire Clistrim, où Villepin commande une enquête pour savoir si Sarkozy n'a pas touché de l'argent pour plomber sa candidature en 2005. La différence, si vous permettez, la différence, c'est que dans toutes les expériences dont je viens de parler, 69, 74, 81, la droite a un candidat de substitution déjà présent. Ils plombent Chaban, ils ont Giscard. Ils plombent Barre, ils ont Chirac. Ils plombent Balladur, ils ont Chirac. Ils plombent... Là, ils n'ont rien.
Simplement une question pour faire la différence avec notamment 74, c'est qu'il y a de nouveaux acteurs, on parlait des acteurs qui sont apparus, les BFM, les Mediapart, tous ces nouveaux médias, aussi bien chaînes d'info que sur Internet, qui alimentent, et les réseaux sociaux aussi, mais qui alimentent, que pour BFM ou pour Mediapart, là l'affaire Fillon en éléments nouveaux tous les jours.
Oui, un élément nouveau et en continu. C'est-à-dire que c'est ça. Il y a une surréaction permanente et tout ceci finit par désorganiser les partis politiques qui sont le cœur de la démocratie représentative. Et vous disiez, ils avaient un candidat de rechange. C'est ça aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le jeu est complètement désorganisé. Il faut dire d'ailleurs à cet égard que la primaire, qui était soi-disant la solution pour permettre justement de réguler et de stabiliser un peu les choses, ne joue pas son office, ne remplit pas son office. Parce que vous voyez, la primaire, c'est 3 semaines, un peu plus maintenant pour la droite, mais malgré tout, fragilisation immédiate ou quasi immédiate du candidat sur lequel se sont portés quand même 4,4 millions donc, de suffrages. Il y a donc un clash finalement entre cette logique du suffrage maintenant et la logique de l'information continue et tout ce qui est autour, c'est-à-dire la communication également.
Vous parlez de la primaire, on va parler de la gauche. On a vu ce matin Benoît Hamon s'entretenir pendant une heure avec François Hollande à l'Élysée. Là aussi, c'est une situation quand même qui n'est pas anodine, inédite, je ne sais pas, vous allez me le dire, Dominique Rousseau. Enfin, inédite sûr, parce que le président ne se représente pas. Et puis, pas anodine, parce que le candidat choisi par le Parti Socialiste notamment, il n'est quand même pas soutenu de manière évidente par tous les ténors de la gauche.
Absolument. C'est inédit, d'abord, vous l'avez dit, parce que c'est la première fois qu'un président de la République décide de ne pas se représenter à l'élection. C'est inédit aussi parce que le succès de Benoît Hamon est la démonstration que finalement, depuis 2012... François Hollande n'avait pas la majorité de sa politique. Il ne faut pas oublier que la majorité parlementaire de François Hollande n'a pas été fabriquée par François Hollande, mais par Martine Aubry, qui pensait gagner la primaire et qui avait donc constitué avant...
Et qui était patronne du PS à l'époque.
Et qui était patronne du PS. Et c'est elle qui a distribué les investitures pour les élections législatives. Ce qui fait que dès 2012, François Hollande n'a pas eu une majorité personnelle. Mitterrand a construit sa majorité. Il a prononcé la dissolution et il a eu une majorité personnelle. Il a fait la même chose en 88. Le problème d'Hollande, c'est qu'il dès le début, il n'a pas eu de majorité de soutien. Parce que ce n'est pas lui qui l'a composé. Et là, il y a un des piliers de fonctionnement de la Ve République qui manquait. Donc, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? On a effectivement le solde, enfin la démonstration que la majorité parlementaire n'était pas raccord avec la politique menée par la présidentielle. Ce qui est intéressant, ce qui va être intéressant d'observer, je veux dire, c'est une chabanisation à l'envers. C'est-à-dire que plus Hamon montra dans les sondages
ce qui est en train de se passer,
moins il y aura de députés socialistes qui iront vers Macron. Parce qu'ils se diront, après tout, il y a peut-être encore une petite chance pour Hamon, il faut peut-être mieux rester à côté. Donc là, on est vraiment dans une incertitude la plus totale.
Emmanuel Macron vient de citer son nom. On a déjà vu, comme ça, Olivier Roucan, un candidat, j'allais dire venu de nulle part, l'expression est peut-être un peu exagérée, mais pas loin, être aussi haut dans les intentions de vote, aussi proche d'une élection présidentielle.
Alors, venu de nulle part, ou dans tous les cas...
Avec une expérience ministérielle très réduite et une expérience de conseiller qui a été assez courte finalement aussi.
Aussi rapidement, aussi haut dans les sondages, à encore une fois, un temps assez resserré par rapport au premier tour, de mémoire, un tel cas de figure ne s'est pas produit, mais on a quand même des comparatifs. C'est-à-dire que, par exemple, Valéry Giscard d'Estaing, dans l'épisode de 74, n'a pas de parti structuré... pour le servir. Et sa candidature ne faisait pas l'unanimité. Bon, il se trouve qu'il s'est imposé. Donc on peut avoir... Mais là, le contexte est quand même, en effet, on le dit encore une fois, la déstructuration des partis politiques ouvre la voie, de même que cette démocratie de l'instantané a des charismes de l'instant qui vont pouvoir, comme ça, dans les sondages pour l'instant, performer. Mais on parle là de sondages et de bruit médiatique. Mais... Emmanuel Macron n'a jamais été élu à une élection. Il se présente directement à la présidentielle. Et je crois que le contexte très incertain Bon, il va y avoir des problèmes pour tous les candidats en lice que nous ne connaissons pas encore.
Il y a une différence, une spécificité de l'élection de 2017 par rapport aux précédentes, c'est qu'aujourd'hui, avoir un parti derrière soi devient un handicap. Dans les élections présidentielles, il fallait prendre le parti. Mitterrand a pris le parti pour gagner la présidentielle. Chirac également. Là, ceux qui avaient le parti, Sarkozy, Valls, ont perdu. Ça, c'est une première spécificité. Donc le fait que Macron monte est le témoignage qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de parti pour gagner une élection présidentielle. Alors, il y a une situation qui est intéressante, c'est de voir que nous sommes peut-être dans une situation qui ressemble un peu à celle de 2007. Mmh. C'est-à-dire on avait Ségolène Royal à 22-23% et Bayrou à 17-18. Là, on va voir l'inverse. On va voir le centriste Macron à 21-22 et le socialiste à 15-16.
Et Marine Le Pen devant tout ça, en tout cas pour l'instant, dans les intentions de vote, dans les derniers sondages qui sont parus.
Ce qui est une spécificité et inédite.
Ça aussi, c'est inédit.
Et ça, par contre, elle a, elle, un parti relativement structuré derrière elle. Donc je nuancerai un peu la remarque pour dire que à un moment, le parti, c'était indispensable. Ensuite, c'est devenu une condition nécessaire, mais pas suffisante. Et maintenant, peut-être qu'on est dans cette évolution.
Merci à tous les deux, en tout cas, d'être venus. Je ne vais pas me risquer à vous demander un pronostic. Parce que vu tout ce qu'on vient de raconter pour l'élection, on va évidemment raison garder et attendre de voir ce qui va se passer dans les semaines qui viennent. Merci en tout cas Dominique Rousseau. Et même dans les heures qui viennent, vous avez raison Dominique Rousseau. Merci à vous, merci également Olivier Roucan. Je précise que tout à l'heure, à partir de 14h, Franck Ferrand, c'est le hasard ou pas?
Pas tout à fait.
Va revenir tout à l'heure sur l'élection de présidentielle de 74 et notamment sur la figure de Jacques Chaban-Delmas. Merci encore à tous les deux d'être venus débattre en direct dans Europe Midi. Merci Anissa.
Merci à vous Maxime. À demain midi et demi pour une nouvelle édition d'Europe Midi.